Chapitre 9. Un grand dîner. Dans les jours qui suivirent, malgré les précautions de M. et Mme Marondier, Danielle parvint à s'esquiver plusieurs fois. Elle voyait à la hâte Florent, tantôt dans un thé voisin de l'école militaire, tantôt dans un jardin public, celui du Trocadéro de préférence, toute proche de l'avenue du président Wilson. Moins ils avaient de temps à rester ensemble, moins ils se parlaient, comme si l'imminence de la séparation qui pesait sur ces entretiens les paralysait. Leurs yeux, il est vrai, se rencontraient parfois et disaient plus de choses que leurs bouches n'eussent pu le faire. M. Marondier, lui, n'avait pas oublié la conversation qu'il avait eue avec Robert de Fleurac. On peut même affirmer que, depuis, il n'avait songé qu'à elle. La peur que sa fille ne se mariât pas avec le comte le hantait. Le dimanche, c'est-à-dire le lendemain du jour où il était arrivé à l'improviste au château de Selles, il avait eu un nouvel entretien avec Robert de Fleurac. Il avait prétendu qu'il avait fait faire une petite enquête sur l'incident de la forêt, que le résultat de celle-ci avait été négatif et qu'il pouvait affirmer en conséquence que Danielle était irréprochable. Le comte avait faim de n'en avoir jamais douté. M. Marondier n'en était pas moins demeuré inquiet, d'autant plus que Robert de Fleurac lui avait laissé entendre qu'il comptait partir pour le midi jusqu'à la fin de l'année. « Je voudrais tant que les fiançailles fussent officielles avant son départ », avait-il dit à sa femme en rentrant à Paris. Le surlendemain, il était retourné à Chantilly pour y rencontrer le comte. Il lui avait reparlé du désir qu'il avait que Danielle se mariât le plus vite possible. « C'est une jeune fille romanesque », avait-il dit entre autres choses. « Le fait que vous m'avez signalé, cher ami, m'a beaucoup frappé. Je ne crois évidemment pas qu'elle ait songé à mal faire. Oh non, c'est une nature trop éprise d'idéal pour qu'une pensée malsaine puisse seulement l'effleurer. Néanmoins, la facilité avec laquelle elle a lié connaissance doit être considérée par un père comme un avertissement. Le mariage, à mon avis, ne peut que lui faire du bien. » C'est pourquoi, cher ami, j'ai pensé que puisque votre désir, ainsi que vous me l'avez souvent dit, est d'épouser ma fille, il serait peut-être bon que nous fassions le premier pas. » Le comte avait simulé une joie profonde. Encouragé, M. Marondier avait continué. « Puisque vous êtes de mon avis, cher ami, nous organiserons, ma femme et moi, pour la fin de la semaine, un grand dîner en l'honneur de vos fiançailles. » « Daniel, ton père ne te l'a peut-être pas dit, mais ce soir nous avons un grand dîner en l'honneur de tes fiançailles avec le comte Robert de Fleurac. » Madame Marondier, qui se doutait de l'effet que produiraient ses paroles, avait attendu le dernier moment pour annoncer cette nouvelle à sa fille. « Je ne comprends pas ce que tu veux dire, maman, » fit cette dernière. « Je voudrais que tu mettes la robe que tu avais au bal de Madame Éric Pommeau. »« Je ne veux pas me marier !» s'écria Daniel. Personne ne parle encore de mariage, ma chérie. Le comte part après-demain pour je ne sais combien de temps dans le midi. Il ne reviendra pas avant Noël. À ce moment, tu auras changé d'avis, tu comprendras mieux les choses. Écoute donc ta mère. Tu sais bien qu'elle n'a toujours agi que dans ton intérêt. Tu sais que ton père n'est pas en très bonne santé et il est si content. » Daniel baissa la tête. Il y avait une heure à peine, Florent et elle s'étaient promenés dans les bosquets voisins de la tour Eiffel. Ensemble, ils avaient fait des projets d'avenir. C'était de la carrière du peintre qu'ils avaient surtout parlé. Florent avait tiré de sa poche une coupure de presse dans laquelle un critique le comparait à un Renoir de période de crise, voulant ainsi dire qu'à la richesse paisible du grand artiste, le débutant ajoutait une vigueur en harmonie avec la difficulté des temps, ce qui était en réalité assez incompréhensible. Daniel avait voulu garder cette coupure pour la relire une fois qu'elle serait seule. Oui, plus tard, leur vie serait partagée entre l'amour et l'art. Tous deux, ils avaient rêvé d'un portrait intitulé « La femme de l'artiste » que le musée du Luxembourg, par une délicate attention, achèterait pour remplacer la femme aux gants. Et c'était au sortir d'un moment aussi délicieux que Daniel apprenait que ses parents avaient organisé pour le soir même un dîner en l'honneur de ses fiançailles avec le comte de Fleurac. « Non, maman, je n'assisterai pas à ce dîner. »« Voyons, chérie, pense à ton père. » Ce ne fut qu'à la fin de la journée, à la dernière minute, on peut dire, que Madame Marondier fléchit l'entêtement de Daniel. Comme au théâtre, quand il s'agit de montrer visiblement l'allégresse, ce fut autour de la jeune fille un va-et-vient de femme de chambre. On fit quelques points à sa plus belle robe, celle du bal de Madame Éric Pommeau, on manda à la hâte un coiffeur. Une gerbe de fleurs était arrivée dans l'après-midi. On la dissimula pour ne pas effaroucher Daniel. En un mot, on fit tout ce qu'il est possible de faire pour qu'à la beauté physique correspondît une âme en rapport, c'est-à-dire qu'il ne détruisit pas cette beauté. Aussi, quand Daniel parut dans le salon où se trouvait déjà le comte de Florac en habit, M. Marondier et M. et Mme Guillemin, à qui, comme avait dit la mère, il ne fallait pas faire l'affront de les tenir à l'écart, tout le monde fut saisi d'admiration. M. Marondier remarqua bien qu'une certaine tristesse était peinte sur le visage de sa fille, mais il était de ces hommes pour qui tous les sentiments de la jeunesse sont des caprices et tous ceux de l'âge mûr des forces contre lesquelles il est inutile de lutter. On parla un peu, puis on passa dans la salle à manger qui, pour la circonstance, avait été fleurie comme une voiture de mariée. Daniel n'avait pas encore prononcé un mot. Durant le repas, on s'efforça de l'égayer, mais ce fut peine perdue. Elle était assise à côté du comte, et pas une fois, elle ne se tourna vers lui. Par signe, on laissa entendre qu'elle était émue, que n'importe quelle jeune fille l'eût été à sa place. Après le dîner, profitant de la confusion qui résulta du passage des invités au salon, elle s'esquiva. M. Marondier ne fut pas long à s'en apercevoir. Il pria sa femme d'aller la chercher. Madame Marondier trouva sa fille à demi étendue sur son lit, le corps soulevé de sanglots. « Que se passe-t-il, ma chérie ?» Daniel ne répondit pas. Madame Marondier, avec douceur, l'obligea à se relever, lui essuya les yeux, remit de l'ordre dans sa coiffure et, la prenant par le bras, la reconduisit parmi les invités. « Tout est bien ?» demanda M. Marondier à voix basse. « Oui, oui, Daniel a été un peu souffrante, maintenant c'est fini. » Un quart d'heure s'était à peine écoulé que cette dernière, alors que tout le monde avait oublié le petit incident qui s'était produit à la fin du dîner, poussa un cri et tomba sur son siège, le regard fixe, le visage d'une pâleur anormale. On l'entoura. Le comte et M. Marondier portèrent le fauteuil sur lequel la jeune fille était effondrée, près d'une fenêtre qu'on ouvrit aussitôt. M. Guillemin lui posa une compresse d'eau glacée sur le front. « Ce n'est rien, ce n'est rien !» répétait sans cesse M. Marondier. Bientôt, Daniel revint à elle, s'excusa de son malaise. « C'est fini, n'est-ce pas ?» lui demanda son père. Elle ne répondit pas. Ses paupières, d'une minceur extraordinaire, s'abaissèrent et se relevèrent à plusieurs reprises, avec lenteur. « Oui !» murmura-t-elle finalement. À 11 heures, le comte de Florac se retira. M. Marondier l'accompagna jusqu'à la porte d'entrée. Pour la troisième fois, ce dernier s'excusa des petits incidents dont sa fille avait été la cause. Le comte lui répondit que ceci n'avait aucune importance, qu'ils avaient été provoqués par l'émotion. « Vous verrez, ajouta-t-il, que lorsque je reviendrai, Mademoiselle Danielle ne sera plus la même. Il faut lui laisser le temps de se faire à l'idée de se marier. « Où est Daniel ?» demanda M. Marondier quand il fut de retour au salon. « Dans sa chambre, elle ne se sent pas encore très bien. » M. Marondier ne put réprimer un mouvement de mauvaise humeur. Sans répondre à sa femme, il se rendit aussitôt auprès de sa fille. Elle n'était pas étendue sur son lit cette fois. Accoudée à la fenêtre, la tête dans ses mains, elle n'entendit même pas son père. « Veux-tu me dire, s'écria ce dernier, ce que signifie cette comédie ?» Daniel sursauta, se retourna et, les deux mains derrière elle, sur la barre d'appui, comme si elle voulait prendre son élan, elle regarda son père avec une frayeur mêlée de révolte. « Je ne me marierai jamais avec le comte de Florac » dit-elle avec tant de force que son père, l'écartant, ferma la fenêtre. « Tais-toi, dit-il, on t'entend jusque dans l'avenue. » « Non, non, je ne me marierai jamais avec cet homme, car j'aime, tu m'entends, papa ? J'aime Florent comme toi tu as aimé maman. » « Je voudrais que tu te voies dans une glace, » fit M. Marondier. « Tu as l'air d'une folle. »«
Je ne suis pas folle. J'aime Florent. Il faut que tu le saches, papa. Et si je me marie, ce ne sera qu'avec lui. »
M. Marondier dut faire un effort pour ne pas laisser paraître sa colère. « Puisque tu me parles ainsi, je te répondrai que jamais je ne te donnerai la permission d'épouser cet aventurier. Car c'est un aventurier, crois-moi. » On n'agit pas comme il l'a fait quand on est un honnête homme. On n'abuse pas ainsi de la confiance qu'on place en vous. Et toi, dans ta naïveté, tu crois à son amour. Tu ne vois donc pas que cet homme ne t'aime que pour ta fortune? Je te le répète, c'est un aventurier qui se dit peintre pour mieux arriver à ses fins. Il suffit d'ailleurs de regarder sa peinture pour voir qu'il n'a jamais touché un pinceau.
« Papa !» fit Daniel, tellement bouleversée qu'elle pouvait à peine articuler les mots. « Tu n'as pas le droit de parler ainsi de Florent. »
Un instant, elle songea à tirer de son sac la coupure de presse que le peintre lui avait donnée, mais elle craignit d'augmenter encore la colère de son père.
« J'ai tous les droits, ma fille. »
« Non, papa, Florent est incapable seulement d'avoir une mauvaise pensée. Tu n'as pas le droit de le juger sans le connaître. »
M. Marondier comprit qu'il était inutile, ce soir-là, de faire entendre raison à sa fille.
« Bonne nuit, » dit-il brusquement, « nous reprendrons cette conversation demain matin, quand tu auras l'esprit plus clair. »